Là, je reviens juste d'Afrique et le Burkina Faso est un des, je crois que c'est le cinquième pays le plus pauvre du monde. Et on y voit des choses, une pauvreté terrible. Et en plus, voilà que les éléments se déchaînent, une inondation, Ouagadougou, des maisons rasées. Des femmes qui crient partout parce que les bébés ont été emportés dans les maternités par des vagues de boue. Une horreur, une horreur, une horreur. En plus, j'ai des amis très chers à qui il arrive des difficultés incroyables. Et tout ça, ça fait de la peine, tout ça fait réfléchir. On se pose des questions, on dit, enfin, Seigneur, il y a si peu de serviteurs, si peu de gens. J'espère qu'ils travaillent sérieusement dans la moisson. Et mon Dieu, que se passe-t-il, que se passe-t-il? Non, je priais, je demandais à Dieu une consolation, et la consolation est venue sous la parole d'une forme, sous la forme d'une parole très claire, et sous forme d'une parole qui ne prête pas à discussion. Et je remercie Dieu, c'est rassurant quand c'est comme ça. On a tous besoin de se prendre de temps en temps un petit coup derrière les oreilles pour remettre les choses en place. Et moi, mes sentiments me submergeaient, j'étais attristé à cause surtout de ce qui arrive à mes amis là-bas. Et j'étais vraiment troublé. Et voilà, et Dieu m'a parlé. Donc je voudrais qu'on lise Romains chapitre 9, verset 14. Dans la parole vivante, je vais vous lire. Et je voudrais que vous écoutiez cette prédication en pensant, voilà, est-ce que vraiment je suis prêt à marcher avec Dieu comme ça, en pensant comme ça. Romains 9, 14. Paul dit, cela ne paraît-il pas étrange? Dieu serait-il injuste? Nullement. N'a-t-il pas dit expressément à Moïse, j'aurai compassion de qui je veux et je lui ferai miséricorde. Les bénédictions de Dieu ne dépendent donc pas avant tout de nos efforts. L'homme a beau vouloir les acquérir, faire tout son possible pour les avoir, tout découle de la compassion divine. Amen. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 9, l'apôtre Paul nous démontre une chose nouvelle, qui était nouvelle à son temps, à son époque, à son temps. Il dit, voilà, maintenant Dieu se tourne vers les non-juifs. Ah, c'était tout à fait nouveau. C'était tout à fait nouveau. Il affirme clairement que les choses se sont toujours produites selon sa volonté, qu'au départ, il a choisi la descendance d'Abraham, donc ce qu'on appelle le peuple juif. Et dans la descendance d'Abraham, seul Isaac a été choisi. Et que de la descendance d'Isaac, seul Jacob a été choisi. Voilà. Mais comment décide-t-il tout ça? Comment décide-t-il tout ça? Eh bien, par son pouvoir d'élection, mes frères et sœurs. Maintenant, pourquoi Dieu s'est-il choisi à ce moment-là, après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, pourquoi Dieu s'est choisi les non-juifs? Parce qu'il fait miséricorde, à qui il fait miséricorde? Point. Il a compassion, de qui il a compassion? Point. Il aime Jacob, pourtant moi, quand je regarde Jacob, rusé, tout ça, et il dit, j'ai haï Ésaü, qui pourtant semble bien honnête, un brave bonhomme, hein? Bon, voilà. Il va jusqu'à endurcir le cœur de Pharaon, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, et il n'est pas injuste. Qu'est-ce qui me fait dire qu'il n'est pas injuste? C'est pas ma chair. C'est pas ma chair. Ma chair, elle dit, c'est injuste. C'est pas ma chair. C'est mon amour pour lui qui me fait dire, il est juste. Dieu est sur le trône et nous sommes là et nous avons à nous soumettre. Nous avons à nous soumettre, point, j'aurais dit encore. Point, terminé. On ne discute pas. Qui es-tu, grain de poussière, pour oser contester ça? Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Qui es-tu, grain de poussière, pour oser contester ça? Il est Dieu et il a toute autorité pour faire absolument ce qui lui plaît. Et, mes chers frères et sœurs, On ne peut pas décider de le suivre tout en voulant toujours trouver des raisons valables, justes, qui nous conviennent dans tout ce que Dieu fait. On ne peut pas. On ne peut pas prétendre vouloir le suivre avec des conditions pareilles. Si quelqu'un veut le servir, il doit arrêter d'argumenter. Comprendre que Dieu est Seigneur, Maître, ayant droit de vie et de mort, de tout. Il a droit de tout. Ceux qui rencontrent vraiment Dieu sont appelés au renoncement, à renoncer à leur propre vie, donc à rejeter leur propre raisonnement. Parce que, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous tenir devant lui autrement qu'en nous appuyant sur l'obéissance. C'est tout, l'obéissance. N'essayons pas de jouer à ceux qui voudraient conseiller Dieu. Je me rappelle d'un frère, il est décédé maintenant, un jour il me dit, moi je discute avec Dieu, hein. Moi je ne suis pas toujours d'accord, j'ai dit, il trouvait très malin de dire toutes ces choses-là. Bon. Écoutons simplement ce que Dieu dit, j'aurai miséricorde de qui j'aurai miséricorde, point. Dieu ne discute pas, il ne discute pas. Il fait ce qu'il a décidé. Il avait déjà décidé qu'il choisirait les non-juifs. Il avait annoncé ça pour les prophètes. Il a eu la gentillesse de nous avertir. On a eu le temps de se préparer. Il a la gentillesse de nous préparer, de nous dire que, attention, à la fin des temps, quand la génération qui verra les juifs revenir dans leur pays, quand cette génération arrivera, eh bien, voilà, le quatrième sceau sera ouvert, et puis le séjour des morts sera lâché, et puis il y aura des morts inexplicables, il y aura des horreurs, des choses affreuses qui vont se produire un peu partout, et la mort frappe. Et voilà, on est averti. Les faux prophètes qui séduiront beaucoup, ça. Il fait, mais heureusement, il nous a avertis un petit peu. À nous, maintenant, ça fait longtemps qu'on sait ça. Maintenant, on est en plein dedans. Il fait simplement ce qu'il a décidé. Et avec Paul, nous avons, en tant que disciples de Jésus-Christ, à rendre ce témoignage. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni de rien du tout, mais de Dieu qui fait miséricorde uniquement. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Romains 9, 16 à 18. Voilà. Voilà. Il dit un peu plus loin, nous sommes des vases de terre. Et vendredi passé, je vous l'ai dit, nous sommes des vases de terre. On ne va pas contester avec Dieu qui est le potier. On ne va pas contester. Oui, mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Oui, mais pourquoi si? Oui, mais pourquoi? À ceux qui disent des choses comme ça, Paul ne dit pas, mais qu'est-ce que tu dis là? Il ne dit pas, qu'est-ce que tu dis? Il dit, qui es-tu? Il n'écoute même pas ce qu'on dit. Il dit, mais t'es qui toi? En tout cas, nous ne sommes pas de ceux que Dieu consulte pour savoir ce qu'il a à faire. Non, mais il faut le dire quand même. Hein? Qu'est-ce qu'il nous demande? D'obéir à son autorité. Obéis, et voilà, obéis. Et reconnaître que, puisque ça vient de Dieu, eh bien, tout est bien. Alors, le problème, c'est, oui, mais il y a le diable. Oublie le diable. Oublie les démons. Oublie la chair, oublie tout ça, oublie tout ça. Écoutez, on va lire un texte des Écritures. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu et que nous devons absolument savoir, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Alors, lisons Jérémie 3, 37, 38. Jérémie 3, 37, 38. Lamentation de Jérémie 3, 37, 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Qu'est-ce qu'on a à discuter? Qu'est-ce qu'on a à discuter? On va relire parce que c'est quand même très important. Ah oui, mais on a notre libre arbitre. Ah oui, mais on peut, nos prières peuvent influencer le bras de Dieu. Ça, c'est de la religion de pacotille née dans le cœur de gens rebelles. Voilà ce que la Bible dit. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Vous savez, quel est l'acte le moins raisonnable que Dieu a fait? C'est de nous sauver. c'est de nous sauver. Il n'y a aucune raison à ça, nous sauver. C'est juste parce qu'il nous aime. Ce n'est pas une question de raison, c'est une question d'amour. Tous les raisonnements des hommes sont toujours faux. C'est parce que nous autres, les êtres humains, on gît sous le principe de la connaissance du bien et du mal. Et cette connaissance-là, c'est la raison. C'est l'empire de la raison. La raison dont on est tellement fier. On voudrait que tout soit bien casé, puis que ça soit bien raisonnable. Si la Bible était un livre fondé sur la raison, nous serions sans arrêt en train de raisonner. Mais Dieu, dans la Bible, nous dit « Qui es-tu ?» pour raisonner, quoi. Il dit « Je ne te dis pas tout ça pour que tu discutes avec moi. Je te dis tout ça pour que tu gardes ton rang. » Voilà ce que Dieu est en train de nous dire. Tout ce que je te le dis afin que tu gardes ton rang, que tu sois content d'être là où tu es, et que tu sois content d'être ce que tu es, et que tu sois content de tout ce qui t'arrive. Et que l'homme ne se plaigne que d'une chose, de ses propres péchés. Point. Waouh ! Frères et sœurs, Dieu est au-dessus de tout. Il vit dans une gloire qu'on ne peut même pas approcher. Entrevoir cette gloire, tu meurs. C'est pas juste une phrase, c'est écrit. Hein. L'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Vous savez, seuls les gens qui sont loin de Dieu peuvent se montrer hautains et arrogants et avoir de telles phrases comme, par exemple, « Oui, mais moi je dis à Dieu que, hein, parce qu'au fin quand même, il me semble que, je pense que. Hein. » Ils vivent dans les ténèbres de leur raisonnement, comme Paul vivait avant sa conversion. Oh, il était très religieux. Il avait la meilleure religion du coin. Hein? Il avait une très très bonne religion. Hein? Il se croyait juste et il agissait. Il commettait des crimes. Il tuait au nom de Dieu. Il pensait qu'il faisait juste. Il pensait qu'il rendait un culte agréable à Dieu. C'était un jusqu'au boutiste. Eh bien, Dieu l'a foutu par terre. Dieu l'a foutu par terre. C'est tout ce qu'il méritait, cette espèce d'arrogant. Dieu n'a rien pu trouver de mieux à faire que de le jeter par terre en bas de son cheval. Mais par contre, avec une âme humble, Dieu s'y prend autrement. Dieu s'y prend autrement. Le principe vital des pécheurs, des hautains, des arrogants, de ceux qui ne s'approchent pas, qui ne connaissent pas les choses véritablement de Dieu, de sa parole, le principe vital des pécheurs, c'est la raison, à cause de la connaissance du bien et du mal, héritage que nous avons eu depuis la chute d'Adam et Ève. Mais ce n'est que quand la gloire du Seigneur nous apparaît, mes frères et sœurs, qu'on se rend compte que nous sommes que des vases de terre. C'est le même Paul qui va dire plus tard, « Je suis qu'un vase de terre. » Quand quelqu'un est déjà humble de cœur. Vous avez des gens qui naissent humbles de cœur, d'autres non. Eh bien, quand quelqu'un est humble de cœur, la Vierge Marie, cette petite jeune fille, elle n'a pas été jetée par terre au fond de sa cuisine. Non, un ange l'a visitée. Je te salue Marie, pleine de grâce à toi. Hein? Et puis, il lui a parlé, et puis il l'a convaincue par des paroles. Elle s'est laissée convaincre. Zacharie, ce vieux religieux qui se présente devant, n'est-ce pas, dans le lieu très saint. Et voilà que l'ange lui fait l'honneur de venir le visiter, lui donner un message de la part de Dieu, commence à contester. Paf, muet. Voilà comment Dieu fait. Mais Corneille, ce païen qui avait entendu parler du Dieu des Juifs et qui faisait des dons, qui était gentil. Et lui aussi, il a reçu une visite d'un ange et puis il s'est converti en douceur. Dieu lui a envoyé l'apôtre Pierre et puis ça s'est passé dans la maison très calmement, très gentiment. Paul, lui, non. Mais une fois jeté par terre, il est devenu humble. Ça, c'est un bon signe. Ses raisonnements basés sur le bien et sur le mal se sont évanouis à la lumière de la gloire de Dieu. Vous savez, plus une personne vit dans la gloire de Dieu, moins elle raisonne. Si vous rencontrez une personne qui raisonne tout le temps, vous pouvez deviner qu'elle a probablement jamais, ou en tout cas très peu, vu la gloire de Dieu. Depuis quelque temps, Dieu est en train d'apprendre une chose importante, c'est que Dieu agit souvent sans raison. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas être contents en m'écoutant dire des choses pareilles. Mais, frères et sœurs, si je pouvais comprendre tout ce qu'il fait, je serais moi-même assis sur son trône, non ? Pensez-vous pas ? mais je vois qu'il est bien au-dessus de moi, mes frères et sœurs. Alors doucement, je me prosterne et puis mes raisonnements disparaissent. Seigneur, les mots et les biens viennent de toi, Seigneur. Qui dira qu'une chose arrive sans que tu l'aies ordonnée? Ma vie, elle est de moins en moins contrôlée par la raison. Déjà que beaucoup de gens pensent que je suis un peu dingo, alors en plus, la raison, officiellement, je dis, je la mets de côté, de moins en moins dirigée par la raison et de plus en plus débarrassée de ce lien, de l'idée de la connaissance du bien et du mal pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Celui qui connaît Dieu, il se connaît lui-même. Et il est délivré de tout raisonnement. Il n'y a qu'un seul moyen qui permet de connaître Dieu, c'est l'obéissance. Quand on se met à obéir à Dieu, c'est parce qu'on a conscience de qui il est et de qui nous sommes. Tous ceux qui vivent comme ils veulent, en disant « je suis libre », en vivant d'après ce qu'ils pensent, et non pas d'après la volonté écrite de Dieu, ne l'ont jamais ou très peu connu. Vraiment. Mes frères et sœurs, seul celui qui obéit connaît Dieu. Et puis c'est seulement alors que la connaissance du bien et du mal qu'Adam nous a transmise se trouve éliminée. On va lire Lévitique, enfin non, on ne va pas lire parce que c'est très long, mais vous allez lire Lévitique 18 à 22, vous allez dire c'est un grand passage. Puis vous allez voir, vous allez constater une chose, c'est que Dieu, il dit, il intercale une phrase toujours entre ses ordres, et cette phrase, il la donne à son peuple, il dit « Car je suis l'Éternel ton Dieu, car je suis l'Éternel ton Dieu, car je suis l'Éternel ton Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Je te parle ainsi parce que je suis le Seigneur ton Dieu, je n'ai pas besoin de te donner des raisons, je te dis ce que j'ai à te dire parce que tu dois l'entendre. Moi, le Seigneur, je suis la raison, je suis ton Dieu, je suis ton tout, je suis ton souverain bien, et toi, tu obéis, tu fais ce que je dis, puis c'est tout. » Mes frères et sœurs, si on comprend ça, si on comprend ça, on ne vit, on ne peut plus jamais vivre en s'appuyant sur sa raison. On ne peut plus. Une personne humble, elle se prosterne avant d'être jetée par terre comme Paul. Et il dit de tout son cœur, « Seigneur, tout ce que tu as fait, eh bien, pour la simple raison que c'est toi qui l'as fait, eh bien, c'est bien. C'est bien et c'est suffisant pour moi. » Et je dis ça à des gens qui souffrent. J'ai des amis qui souffrent terriblement, les frères et sœurs de la communauté. Vous savez de qui je parle, de quoi je parle. C'est une souffrance terrible. Mais étant donné que les maux et les biens viennent de Dieu, étant donné que rien n'arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné, étant donné qu'il peut endurcir le cœur de celui-ci ou de celle-là, et qu'il choisit l'un plutôt que l'autre, eh bien, Seigneur, tout est bien. Tout est bien. Regardez Paul jeté par terre par Dieu. Écoutez ce qu'il dit une fois qu'il est la tête dans la poussière. Que dois-je faire, Seigneur? Ah, Seigneur. Il s'est immédiatement mis aux ordres. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Celui qui connaît Dieu, il ne discute pas ce que Dieu dit. Parce que la raison, à partir du moment où il rencontre Dieu, la raison, elle est jugée, la raison, elle est mise de côté. Ce n'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur lui dit?
Ben écoute, il faut que tu te sens poussé par le Saint-Esprit. Tu vas prendre la Bible, puis tu vas la lire, puis quand tu te sentiras poussé à obéir à un truc ou à un autre, ben tu le feras.
C'est ça qui est écrit? Non. Que dois-je faire, Seigneur? Tout ce qui est écrit, tu vivras de la parole qui sort de ma bouche. Mes frères et sœurs, si nous prétendons pouvoir discuter avec Dieu, cela sous-entend que Dieu aurait besoin de notre consentement dans tout ce qu'il est en train de faire. Alors il m'écouterait moi, puis après il écouterait Philippe, puis après il écouterait Stéphane, après il irait chez Rachel, il dirait « qu'est-ce que t'en penses ?» Après il irait chez Igor. Oui, alors écoute Michel, il m'a dit ça, mais toi qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse?
Vous imaginez un petit peu? Non, mais vous imaginez un Dieu comme ça?
C'est de la pure folie, mes frères et sœurs. Même le diable n'a pas cet orgueil ni cette bêtise de penser une chose pareille. Même le diable. Il faut vraiment être un homme, une femme, pour oser penser un truc aussi stupide, aussi bête, de bête, de bête, de bête. Cet orgueil-là n'habite même pas le diable. Tout ce que Dieu fait, il le fait sans avoir de compte à rendre à personne. C'est la seule personne de l'univers entier qui est dans ce cas-là. Dieu. Amen. Et moi, ça me réjouit. Ça me rassure. C'est un coup de bâton qui me rassure. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Moi, ça me rassure. Je dis, ouf, merci Seigneur qu'il n'est pas en train d'écouter. Machin là-bas qui est en train de parler de moi d'une certaine manière. L'autre qui est en train... Heureusement qu'il n'est pas influençable, en train d'écouter tous les avis de tout le monde. Amen. Il sait ce qu'il fait. Ses voix sont bien au-dessus de nos voix. Et si nous rabaissons Dieu au niveau de notre raisonnement, eh ben, on est en train de le perdre. On peut dire autrement, on est en train de se perdre. Moi, j'aime bien dire on est en train de le perdre, c'est-à-dire on le perd de vue. Et puis, ce n'est plus Dieu qu'on suit, c'est autre chose. C'est une erreur. Pourquoi est-ce que nous le perdons si nous pensons que Dieu ne peut se saisir, se comprendre que par des raisonnements humains? Eh bien, nous le perdons parce que nous le faisons tout simplement à notre image. Et c'est exactement le contraire, la vérité. C'est nous qui sommes faits à son image. C'est pas à nous de faire Dieu à notre image. Sérieux, ça. Alors, je pose la question. Où est la différence entre le potier et l'argile? Il y a de quoi écrire là-dessus. Hein? Le potier aurait-il besoin de demander l'approbation de l'argile pour commencer à travailler? Mes frères et sœurs, que la glorieuse apparition de notre Seigneur mette à terre tous nos raisonnements et mette un terme à tous nos raisonnements. Que nous soyons humbles, soumis. D'où viennent les raisonnements? Ben, ce n'est pas compliqué. D'où viennent ça, les raisonnements? Ben, c'est un processus. Nos paroles hautaines viennent des raisonnements hautains. Et les raisonnements, ben, c'est le résultat de la cuisine et des mijotages que nous faisons dans nos pensées. Voilà d'où ça vient, les raisonnements, puis ensuite les paroles qui sortent, et puis des actes qui ne sont pas des actes de foi, mais des actes de culot ou de je ne sais quoi. Puis on dit, oh non, j'ai fait un acte de foi, et Dieu n'a pas répondu, je ne comprends plus. 2 Corinthiens 10, 5, je voudrais vous lire dans la parole vivante. 2 Corinthiens 10, 5. C'est ça que j'ai dit. 10, 5. Paul y dit, oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisons prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir à Christ et à reconnaître son autorité. Aussi sommes-nous prêts à agir fermement et à redresser ceux qui sont rebelles dès que, de votre côté, vous serez de nouveau décidés à nous écouter, à nous obéir en toutes choses. Waouh! Waouh! 2 Corinthiens 10, 5 déclare que la rébellion de l'homme a lieu dans sa pensée d'abord. Et Paul parle là de détruire tous ses raisonnements, de les détruire. C'est un terroriste. À poser des bombes sur nos raisonnements. Et il parle de détruire toute chose élevée qui se place au-dessus de la connaissance de Dieu. Parce que si quelque chose se place au-dessus de la connaissance de Dieu, c'est bien cette connaissance du bien et du mal. Un disciple de Jésus n'a plus le droit de penser que. Ses raisonnements doivent être détruits et sa pensée doit être rendue captive à Jésus-Christ. Parce que si elle n'est pas captive à Jésus-Christ, elle est captive dans les propres forteresses qu'elle s'est construites. On va lire le texte de 2 Corinthiens, donc 10, 4, 5. On va le relire, c'est bien, on va le relire. Nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dresse prétentieusement en rempart, vous voyez quand je parle de forteresse, contre la véritable connaissance de Dieu, faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir à Christ et à reconnaître son autorité. Aussi sommes-nous prêts à agir fermement et à redresser ceux qui sont rebelles. Paul. L'homme, et même le chrétien, construit des barrières des forteresses, des remparts, pour se donner l'illusion qu'il a le libre arbitre, en fait que Dieu n'est pas le Seigneur, que toute chose n'arrive pas parce que Dieu l'a ordonné, mais que ça arrive parce que c'est des concours de circonstances, et puis Dieu arrange les bidons afin que, des raisonnements. Ces pensées prétentieuses, nous dit l'apôtre Paul, sont dans des forteresses humaines, et l'apôtre dit, moi je vais commencer à détruire tout ça. C'est des pensées qui sont en état de siège, et c'est le Saint-Esprit avec les serviteurs de Dieu, armés de la parole de Dieu, qui vont commencer à s'attaquer à ces forteresses pour les détruire. Une personne qui s'enferme dans des forteresses comme ça de raisonnement, il n'est plus en mesure d'obéir à la parole de Dieu, à la parole qui est écrite, à la parole de Dieu écrite. Voilà pourquoi les chrétiens disent, moi je ne me sens pas poussé à faire telle et telle chose qui est écrite. Voilà pourquoi certains disent, ah mais vous, vous avez reçu un appel, mais moi je n'ai pas reçu cet appel, hein, alors que c'est écrit. Vous comprenez mes frères et sœurs? Ils se font des religions, des dogmes, des cérémonies, des traditions, mais l'obéissance à ce qui est écrit, non. Paul n'utilise pas la raison pour lutter contre la raison. Il affronte les raisonnements avec des armes spirituelles par le moyen de la puissance de Dieu. Et ça signifie qu'une personne qui n'obéit pas à la parole écrite de Dieu combat Dieu et Dieu combat cette personne. Il y a une lutte, il y a un combat. Il y a un combat. Mais c'est dommage. Pourquoi lutter contre Dieu? Mes frères et sœurs, nos habitudes mentales de raisonner, c'est un héritage que nous avons fait d'Adam et Ève. C'est ça qui nous ont légué, cette connaissance du bien et du mal. Et Satan se sert de ça, de ses raisonnements. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, t'es appelé à ça, mais t'es pas appelé à ça, parce que ça c'est pas pour toi, parce que c'est pas sur ta personnalité, puis voilà, puis comme ci, puis comme ça, puis c'était pour autrefois, puis c'est plus pour aujourd'hui, puis voilà, puis c'est plus ou moins religieux, plus ou moins mystique, et ça enchaîne les gens, afin qu'au lieu d'être saisis par Dieu, eh bien, ils deviennent ennemis de Dieu, par leur désobéissance. Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a raisonné avec Ève, et qu'est-ce qu'Ève a fait? Eh bien, elle a arrêté d'écouter Dieu. Pas plus compliqué. Il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas 150 milliards de commandements à l'époque. Il y en avait un. Un seul. Satan arrive et il se permet d'avoir un raisonnement à ce sujet. Et Ève, cette grosse nouille, elle écoute.
Ah oui. Ah ben ça me semble bien ce qu'il dit là. Ouais. Oui. C'est vrai que l'autre côté là-bas, c'est un petit peu autoritaire ce qu'il dit quand même. Puis c'est des menaces de mort, c'est pas gentil ça de la part d'un Dieu d'amour, de me menacer de mort que si je mange de ce fruit je vais mourir, c'est pas gentil, c'est peut-être pas Dieu qui a dit ça à Adam quand même. Voyons, raisonnons un petit peu, finalement cet arbre ça a l'air d'être bien, ça doit ouvrir l'intelligence parce que finalement même le fait rien que d'avoir pensé à ça, ça me fait réfléchir. Avant je réfléchissais pas, j'étais une blonde.
Pardon les blondes, hein, j'ai rien contre vous.
Elle n'a plus écouté Dieu, et puis voilà où on en est aujourd'hui. On a hérité de la connaissance du bien et du mal.
Vendredi prochain, je vous parlerai des armes spirituelles puissantes à utiliser. Mais déjà maintenant, je vous exhorte, chacun d'entre vous, vous qui êtes sur Internet, vous qui écoutez à la radio, de vous prosterner devant Dieu volontairement. N'attendez pas qu'il vous jette par terre comme il a dû le faire avec Paul, ou qu'il vous rende muet comme il l'a fait avec Zacharie, ou des choses comme ça. Paul, c'est un religieux arrogant, avec des raisonnements religieux, très sincères, mais bêtes, raisonnements humains. Bien, mal, la loi, il était sous la loi complètement. Il était frère spirituel de ceux qui ont crucifié Jésus. Ah, 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 ah. Et il continuait en crucifiant ceux en qui Christ vivait. Et voilà. On connaît l'arme à son fruit. Mais il se releva soumis à Dieu. Soumis jusqu'à la mort. Soumis jusqu'à la mort. Voilà ce qu'un disciple doit être, mes frères et sœurs, soumis à la parole de Dieu. Comme Ève aurait dû l'être. Alors que Dieu éclaire chacun d'entre nous, et particulièrement ceux qui en ont besoin. Écoutez Dieu. Et non les fables que les Matthieu 24, 11 racontent de nos jours. N'écoutez pas les fables des Matthieu 24, 11. La Bible est la parole de Dieu. n'y avait qu'une parole de Dieu du temps d'Ève, c'était « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il n'y avait qu'une parole de Dieu. Elle n'était pas écrite, elle avait été donnée. Maintenant, il y a tout un livre. C'est ça qu'on doit écouter. Ce n'est pas ces raconteurs de fables, ces religieux qui parcourent le monde avec leurs petites histoires religieuses et leurs petits machins et leurs petites histoires d'églises et de trucs, de nicolaïtes et de catholiques améliorés. Non, 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 non. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il y en a qui disent, j'ai lu, il y en a qui disent que je ne crois pas que la parole de Dieu soit que la Bible soit la parole de Dieu. Il y en a qui disent ça. Mais... Attends, c'est incroyable d'oser dire une chose pareille. La parole, la Bible est la parole de Dieu absolue. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire quoi? Il ne vivra pas éternellement. La vie, c'est pour l'éternité. On ne peut vivre éternellement que dans cette soumission, dans cette obéissance. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui connaît Dieu ne le connaît que par l'obéissance. S'il n'obéit pas, il ne connaît pas. Si on n'obéit pas, on ne connaît pas. Il me dit, mais on ne peut pas obéir si on ne connaît pas. Ben si, justement, tu dois obéir sans connaître. Parce que Dieu l'a dit. Puis c'est tout. C'est un choix que tu fais. J'obéis ou je n'obéis pas. Je fais ou je ne fais pas. Ça démontre qui tu es. Voilà. Enfin, qui tu es pour le moment. Tu peux changer encore dans l'avenir si Dieu te prête vie. Mais par la parole, par toutes les paroles que Dieu a prononcées, par toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu et qu'ont écrites les saints prophètes et les apôtres et que nous trouvons dans le Saint-Livre aujourd'hui, nous devons vivre de ces paroles-là, vivre ces paroles-là. Ce livre, la Bible, est sorti de la bouche de Dieu autant que le commandement qui avait été donné à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autant chaque parole de Dieu est écrite là sérieusement afin que nous la vivions, que nous la mettions en pratique. On ne rigole pas avec ça. Est-ce que tu vis ces paroles? Ou est-ce que tu te berces d'illusions religieuses? Oh oui, mais Dieu est avec moi, j'ai senti sa présence. Ça peut être erroné. Un jour, j'ai demandé à Frère Osborne, d'où viennent ces miracles que vous avez dans votre ministère? Est-ce que ça vient du fait que vous avez vu Jésus un jour dans votre chambre alors que vous jeûniez? Il a dit, non frère, les visions peuvent être erronées. Il n'y a que la parole de Dieu qui soit la vérité absolue. Voyez, tout ce que vous vivez, toutes vos expériences extatiques et compagnie. Mais moi, je dis ça parce que je vois que le peuple de Dieu est en danger. En danger. Il s'illusionne. Il se berce d'illusions religieuses, de fables. Alors que vous, qui avez choisi d'avenir sur Révélation Bible pour écouter ce message, eh bien, que Dieu vous éclaire et qu'il nous éclaire chacun d'entre nous afin que nous nous jugions nous-mêmes personnellement pour savoir si vraiment nous sommes selon la mesure de la parole de Dieu. Alors, je ne prétends pas avoir tout compris de la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit m'éclaire à mesure du fait que je me soumets à ce que le Saint-Esprit me révèle. Vous voyez ce que je veux dire? Si nous ne commençons pas à nous soumettre à quelque chose où notre chair dit non, comment voulez-vous que le Saint-Esprit vous montre autre chose? Il n'est pas là pour jouer avec vous. Dieu voit si nous sommes fidèles dans les petites choses, alors il nous en confie de plus grandes. Et c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Alors, ne tombez pas sous le joug de l'imitateur qui vous fait construire une forteresse. Non, non. Laissez Dieu détruire les raisonnements et soyez des gens soumis. Tu es le Seigneur. Autrefois, le mot Seigneur avait plus de valeur qu'aujourd'hui. Quand on parlait du Seigneur, on parlait du Seigneur local, on parlait de celui à qui on doit l'impôt, on parlait de celui qui était le Seigneur de ses terres. Et quand on disait Jésus est le Seigneur, on dit, on rigole pas avec le Seigneur, hein. Maintenant, quand on dit le Seigneur, même l'homme le plus influent de France, on se moque de lui. On dit Sarko, on insulte les gloires. On ne doit pas se moquer du président. C'est terrible, vous voyez, on a perdu toute idée d'autorité. Qu'est-ce que c'est l'autorité? Il y a des autorités qui ont été établies par Dieu, dans les nations, dans les communes. Et on n'a pas à les mépriser. Dieu, dans l'Église, on n'a pas à mépriser. Il faut obéir, il faut faire ce que... Il faut reconnaître les autorités. Waouh, Seigneur, C'est une des dernières prédications de l'année. Il faut mettre un point final à ce 2009 et que chacun se range là où il doit être rangé. Amen. Que chacun se range véritablement. Et vous les jeunes, je vous ai repris un peu sévèrement. Je ne m'excuse pas de l'avoir fait. Je vous demande simplement d'être sérieux avec Dieu. Vos parents, il y a une trentaine d'années, ont passé par une véritable conversion. Ils étaient tous dans le péché. Et un jour, ils ont décidé de suivre Jésus-Christ, sérieusement. Ils ont tout vendu, tout quitté, tout abandonné pour marcher avec Dieu, pour suivre Dieu fidèlement. Pas toujours été rigolo, mais on a réussi, grâce à Dieu, à tenir jusqu'encore aujourd'hui. Et on va encore continuer. Et Dieu nous bénit. Dieu fait des miracles au travers de ce que vos parents font et ce que je fais ensemble, tout ce que nous faisons ensemble. Et vous, quand vous étiez, avant de naître, quand votre esprit était auprès de Dieu, vous étiez près de Dieu, eh bien, vous avez choisi de venir habiter ici avec nous. Vous n'êtes pas venu par hasard, c'est votre esprit qui a dit, moi je voudrais bien, et vous avez discuté avec Dieu, parce que quand on est dans l'esprit, dans la présence de Dieu, on parle, on communique. Et voilà que je vous parlerai un jour sur ce que ça veut dire communion. Peut-être vendredi, je vous parlerai de ça. Et vous avez parlé avec Dieu, vous êtes venu, vous avez choisi de venir vivre, et vous avez choisi vos parents, respectez vos parents. Vous allez me dire, ouais, mais mon père, ouais, mais ma mère. Non, honore ton père et ta mère. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre au nord plutôt qu'au sud. Ça veut dire qu'il faut les honorer, il faut les aimer, il faut les bénir, il faut prier pour eux, il faut les aimer. Même s'ils ont des défauts. Mélodie, elle n'est pas là aujourd'hui, elle garde le petit. Mais je n'ai pas toujours été un père qui était parfait, extraordinaire, bleu ciel et tout. Des fois, j'étais injuste avec elle aussi parce que je me suis trompé. Eh bien, mais elle a quand même toujours été soumise, elle a toujours respecté l'autorité de son père et de sa mère. Même si des fois, on a fait des trucs, on est des êtres humains. Mais bon, voilà, il faut reconnaître l'autorité de vos parents. Et puis, il vous faut reconnaître l'autorité de Dieu dans votre vie. Et puis marcher en sachant que voilà, on est en présence de Dieu. Et encore plus quand on est là pour louer le Seigneur le dimanche matin au culte. C'est un moment spécial, on se réunit autour de la parole de Dieu. C'est un moment particulier, précieux. Et on doit s'en rendre compte, prendre conscience de ça. Je regardais sur Internet et je lisais un petit peu parce que je vais regarder toujours un peu ce qui se passe dans les autres religions pour voir où ils en sont, comme ça. Et je voyais chez les Mormons. Chez les Mormons, eh bien, les garçons, ils viennent au culte en costume cravate. Et je sais que notre frère Benjamin, il a un beau costume cravate. Oui ou faux? Oui ou vrai? Non, c'est comme ça. Eh bien, quand il met son costume, il y en a qui vont dire, oh, mais c'est des traditions, on ne vient pas au culte pour montrer son vêtement. Non, on ne vient pas au culte pour montrer son vêtement. Mais on ne vient pas au culte non plus en short, en pyjama. Ou je sais pas moi, avec un string. Non, on a une certaine façon. On vient, on honore Dieu, on s'habille bien. Ça vous plairait, vous les enfants, d'avoir un habit spécial pour le dimanche, pour venir au culte? Ça vous plairait? Je vais vous montrer, eux, ils ont une chorale. Les enfants, ils chantent dans une chorale, comme vous avez chanté tout à l'heure, mais beaucoup mieux, ils chantent beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'ils prennent beaucoup de temps pour apprendre, et puis on leur apprend à se tenir comme il faut, et puis regarder à gauche, à droite, mais à sourire, et à être correct, et à avoir une attitude, n'est-ce pas, inspirante. On va vous apprendre tout ça. Et on leur fait un costume spécial pour ça. Vous allez voir, c'est tout. Tous les garçons sont habillés la même chose, toutes les petites filles sont habillées la même chose, c'est très chic, très beau. Vous voulez que je vous montre ça? C'est sur Internet. Et c'est très joli. Vous n'aimez pas les choses jolies? Vous aimez mieux... Je parle des choses fouillées, chenées, comme on dit en Suisse. Non, on aime bien les choses qui sont jolies, qui sont propres, qui sont bien faites. Hein, que quand on vous dit, vous avancez pour venir chanter, on n'est pas obligé d'attendre un quart d'heure, que vous arriviez en traînant les pieds, en grattant le nez. Non, non. Vous savez, notre frère Olivier et notre sœur Lydie sont en train de prendre des cours de théâtre. Ils apprennent beaucoup de choses sur la façon dont on doit se comporter. Eh bien, je pense que dans la maison de Dieu et partout dans le monde, mais en particulier dans la maison de Dieu, on a une façon d'avoir une façon de se comporter. Eh bien, on va apprendre ces choses-là afin que ça soit le mieux possible pour que Dieu soit honoré. Pas qu'on dise, oh, dans la chapelle des Jantons, là-bas, les jeunes, ils sont en train de bouquiner des... Non, déjà, ça ne se fait plus, ça, c'est déjà pas mal. Mais voilà, que vous soyez des jeunes qui cherchaient à plaire à Dieu, à chercher la présence de Dieu, à chercher la face de Dieu, et à vous tourner vers Dieu. Un jour, Dieu va vous demander, sérieusement, est-ce que tu veux marcher avec moi ou avec le diable? Quand Dieu va vous le demander, vous allez dire quoi? Parce que ça va tomber un jour. Ça va vous tomber sur là. Moi, ça m'est arrivé, j'avais 18 ans. Il y en a, ça leur arrive plus tôt. Qu'est-ce que vous allez répondre là? Ah! Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu sais pas? Tu sais pas ce que tu vas répondre? C'est peut-être possible que je dise que je veux suivre le diable. C'est ça que tu penses? Non. Donc tu vois, en toi, ça travaille. Tu commences à te rendre compte que c'est des choses sérieuses. Eh bien, c'est bien que ça commence à naître dans ton cœur, que ça commence à venir dans ton cœur. L'autre jour, Lucas, il m'a demandé, il a dit, il aimerait bien être baptisé. C'est un peu jeune quand même. Mais on va attendre encore un petit peu, mais dans son cœur, ça commence à travailler, ça commence à venir. Eh bien, c'est magnifique. Il dit, voilà, moi, je vais m'engager. Voilà, Julie qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Ça, c'est magnifique. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que c'est acquis, que c'est gagné et puis que toute la vie est belle. Non, non. Elle a pris un engagement de servir Dieu, de suivre Dieu. Puis elle fait des efforts pour se conformer de plus en plus à... Hein, c'est pas vrai, Julie? On en est tous là, Julie, on en est tous là. Mais... De temps en temps, il faut serrer un peu les boulons pour dire, voilà, on se rappelle de notre engagement, on se rappelle qu'on a décidé de servir Dieu. Et moi, je vous rappelle une chose, les jeunes, c'est que quand vous étiez auprès de Dieu dans votre vie éternelle, dans votre vie passée éternelle, eh bien, vous avez choisi de venir vivre ici. Alors, pourquoi? Eh bien, justement, parce que vous aimez les choses de Dieu. Vous avez toujours aimé les choses de Dieu. Et maintenant, eh bien... Il faut le montrer alors que vous êtes en train d'habiter dans un corps de jeune fille ou de jeune homme. Ah, mais moi, pourquoi est-ce que j'ai un corps de fille? J'aurais mieux voulu avoir un corps de garçon. Oh oui, mais moi, pourquoi est-ce que je suis gros? Oh oui, mais moi, pourquoi je suis maigre? Oh, mais moi, pourquoi j'ai de l'asthme? Mais moi, pourquoi? Dieu, vous avez vu? C'est bien. Tout ce que vous êtes, c'est bien. Faites avec ça. Rendez gloire à Dieu avec ce que vous êtes. Perfectionnez-vous en obéissant à la parole de Dieu, puis vous allez réussir votre vie, vous allez avoir des vies extraordinaires, merveilleuses. Sinon, vous ferez comme tout le monde. On va vous emmener dans les usines pour que vous voyez comment ça se passe avec monsieur et madame tout le monde. On va vous emmener dans le métro pour que vous voyez monsieur et madame tout le monde. On va vous emmener sur les quais, 2 millions de personnes qui se gèlent parce que 500 personnes font la grève. Vous allez voir la belle justice, n'est-ce pas, qui règne dans ce monde. Non, dans la maison de Dieu, il y a des règles et on suit ces règles et tout marche bien. Si on ne suit pas les règles, ben voilà, c'est un peu difficile, c'est pénible. Et on se dit, ah, vivement que j'ai 18 ans, que je puisse me tailler. Non. Pensez à vous tourner vers Dieu et à apporter votre influence dans la communauté. Votre influence. Apporter quelque chose de bon, apporter quelque chose de bien. Moi, je suis très fier de voir que les plus grands parmi les jeunes ont décidé de monter un groupe musical. Et je vais venir vous écouter là, avec tout ce que vous avez répété. J'ai déjà un tout petit peu entendu, parce que l'autre jour, j'étais discuté chez Jean, j'étais prié avec lui, puis j'ai entendu jouer un peu la guitare. Mais c'est bien, ça vient, ça vient. Maintenant, les vieux, on peut mourir tranquille. Hein? Non, pas tout de suite quand même. Mais bon, voilà, il faut, vous devez prendre votre place, trouver quelle est votre place, votre personne dans la communauté, ce qu'elle peut apporter, et vous qui êtes sur Internet, ce que vous pouvez apporter là où vous êtes, trouver votre place, qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez. Et c'est pas à vous de décider, c'est à vous de trouver dans la parole de Dieu les choses que Dieu commande, et à partir du moment où vous faites ce que Dieu commande, eh bien, toutes les portes s'ouvrent, parce que Dieu donne beaucoup à celui qui est fidèle déjà dans les petites choses. Amen. Jésus, veuille bénir cette parole dans les cœurs de chacun et que nous puissions vraiment tous nous régler sur l'étalon de ta parole et que nous ne soyons pas des gens emportés à coups de sentiments et de trucs comme ça, mais que nous soyons vraiment solidement établis, enracinés sur cette parole ancienne, mais si vraie, si juste, si parfaite. Nous savons, Seigneur, que toi seul es juste et parfait. Nous louons ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Amen.